Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cette édition de la Théogonie, Les travaux et les jours et autres poèmes, réunit le noyau conservé de l'œuvre d'Hésiode. Poète grec généralement situé entre la fin du 8e et le début du 7e siècle avant notre ère. Elle associe les deux grands poèmes, dont l'attribution est la plus assurée, ainsi que le bouclier des fragments du catalogue des femmes et la dispute d'Homère et d'Hésiode. La Théogonie expose la naissance des puissances divines et la stabilisation de leur ordre sous Zeus. Les travaux et les jours déplacent l'attention vers la condition humaine, le travail rural, la justice et les règles de conduite. Là, l'ensemble relève d'une poésie didactique, mais il ne se réduit ni à un manuel mythologique ni à un recueil de préceptes. Hésiode organise une vision du monde où généalogie, autorité, saisonnalité, devoir et vulnérabilité des mortels sont étroitement liés. La traduction cherche à restituer le rythme du vers grec, tandis que les commentaires accompagnant les textes donnent des repères de composition et de signification. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la Théogonie transforme les généalogies divines en ordre du cosmos. La Théogonie ne présente pas seulement une liste de dieux grecs. Son principe généalogique donne une intelligibilité à un univers où les forces naturelles, les puissances abstraites et les divinités possèdent toute une origine et des liens de parenté. Le poème part de Chaos, puis de Gaïa et des premières puissances avant de déployer les générations d'Ouranos, de Chronos et de Zeus. Les successions violentes entre père et fils montrent que l'autorité cosmique n'est jamais donnée d'avance. Ouranos est renversé par Chronos, qui est à son tour vaincu par Zeus. La souveraineté finale de Zeus se distingue toutefois par sa capacité à répartir les honneurs et les domaines entre les dieux, plutôt qu'à conserver seul un pouvoir précaire. Le récit relie donc la cosmogonie à une réflexion sur la stabilité politique et sur les conditions de l'ordre. Les épisodes de la Titanomachie, de Prométhée et de Pandore éclairent aussi la distance qui s'établit entre dieux et humains. Ils expliquent symboliquement pourquoi les mortels vivent dans un monde de travail, de limites et de maux. Les nombreuses énumérations peuvent ralentir la lecture moderne. Mais elles ont une fonction structurante, elles cartographient un panthéon et conservent la mémoire d'une tradition mythique plurielle. Deuxièmement, les travaux et les jours font du labeur une réponse à la fragilité humaine. Dans les travaux et les jours, Hésiode s'adresse à Persès, son frère, sur fond de différends autour d'un partage de biens et de jugements corrompus. Cette situation concrète explique le ton personnel du poème, mais son propos dépasse largement un conflit familial. Hésiode oppose la mauvaise rivalité, qui nourrit la violence et l'injustice, à une émulation utile qui pousse chacun à travailler, produire et administrer prudemment ses ressources. Le travail n'est pas présenté comme une simple activité économique. Il constitue la condition normale des humains après les ruptures racontées par les mythes de Prométhée et de Pandore. Cette vision peut sembler sévère car elle associe l'existence mortelle à la peine, à l'incertitude des récoltes et à la nécessité de prévoir. Elle affirme néanmoins que l'effort régulier inscrit dans le cycle des saisons offre une forme de dignité et d'autonomie. Les conseils agricoles ne sont donc pas accessoires, semer, moissonner, naviguer avec prudence et choisir le moment opportun exige l'observation du monde. Le poème associe ainsi savoir pratique, mesure et prévoyance. Il permet aussi de comprendre comment une société paysanne archaïque pensait le rapport entre subsistance, famille, réputation et dépendance envers les dieux. Troisièmement, la justice de Zeus relie conduite individuelle et équilibre collectif. La justice, ou Diké, occupe une place centrale dans les travaux et les jours. Hésiode ne défend pas une justice abstraite détachée des rapports sociaux. Il vise explicitement les rois et juges qui rendent des décisions faussées par les présents et décrit les conséquences collectives de leurs fautes. Dans son horizon religieux, Zeus veille sur les comportements humains et l'injustice des puissants peut atteindre toute une communauté par la stérilité des terres ou le désordre social. Cette logique donne au poème une portée politique. L'autorité ne vaut pas par sa force seule, mais par sa conformité à une règle qui protège le juste partage et le travail honnête. Le recours au mythe renforce ce propos. Le récit des races humaines situe l'âge présent dans une époque de fer, marquée par la peine et la dégradation morale. Ce pessimisme ne conduit pas à l'inaction. Il rend au contraire plus nécessaire la pratique quotidienne de l'équité, de la retenue et de la parole fiable. Le texte ne propose pas un code juridique systématique, mais une éthique de la responsabilité adaptée aux interactions ordinaires, régler les conflits sans fraude. Respecter les limites, éviter la démesure et ne pas rechercher un gain obtenu aux dépens d'autrui. Sa force tient à cette articulation entre destin collectif et choix individuel. Quatrièmement, les mythes de Prométhée et de Pandore définissent une condition humaine limitée. Les figures de Prométhée et de Pandore apparaissent dans les deux grands poèmes, avec des fonctions complémentaires. Prométhée tente de tromper Zeus lors du partage sacrificiel, puis procure le feu aux humains malgré l'interdiction divine. Le feu rend possible un monde technique et culturel, mais son acquisition ne signifie pas une libération sans contrepartie. Zeus répond par des sanctions qui fixent la séparation entre dieux et mortels. Pandore appartient à cette explication des maux humains. Son apparition est liée à la diffusion des peines qui rendent désormais la vie laborieuse et incertaine. Ces récits ne sont pas des versions neutres de la création, ils portent les valeurs et les préjugés d'une société archaïque. La représentation des femmes y est profondément misogyne et doit être lue comme un témoignage historique, non comme une norme à reprendre. Leur intérêt majeur réside dans la manière dont ils relient le sacrifice, le feu, la reproduction, le travail et la mortalité. Hésiode n'imagine pas des humains initialement autonomes, mais des êtres dépendants des dieux, exposés aux besoins et contraints de transformer leur milieu pour vivre. La comparaison des passages montre aussi que le poète adapte un même matériau mythique à des objectifs différents, fondés l'ordre divin dans la théogonie, puis éclairer l'exigence du travail dans les travaux et les jours. En dernier lieu, les textes secondaires et les commentaires élargissent le dossier hésiodique. L'intérêt de cette édition ne se limite pas aux deux œuvres les plus célèbres. Le bouclier met en scène Héraclès et développe la description de son arme, dans une démarche qui dialogue avec la célèbre description du bouclier d'Achille dans l'Iliade. Son attribution à Hésiode demeure discutée, ce qui invite à distinguer l'importance littéraire du texte de la certitude sur son auteur. Les fragments du catalogue des femmes sont eux aussi essentiels, malgré leur état lacunaire. Ils témoignent d'une poésie généalogique qui reliait les héroïnes mortelles aux lignées divines et héroïques, fournissant un matériau important pour la tradition mythographique grecque. La dispute d'Homère et d'Hésiode, beaucoup plus tardive, ne doit pas être traitée comme une biographie fiable des deux poètes. Elle renseigne plutôt sur la manière dont l'Antiquité a construit leur rivalité symbolique entre poésie épique et poésie de sagesse. Les commentaires joints au poème constituent donc un véritable avantage pour le lecteur. Ils aident à identifier les problèmes de transmission, les différences de genre et les échos entre les œuvres, sans effacer les incertitudes philologiques. L'édition propose ainsi une entrée dans un corpus plutôt qu'un seul texte isolé. Elle rend visible la diversité des traditions associées au nom de Hésiode et la complexité de leur conservation. En conclusion, cette édition s'adresse d'abord aux lecteurs de mythologie grecque qui souhaitent remonter des réécritures modernes à une source poétique antique. Elle sera également utile aux étudiants en lettres, histoire, philosophie ou civilisation grecque, car elle met en regard une cosmogonie, une réflexion morale et des textes transmis de façon fragmentaire ou discutée. Le lecteur y gagne plus qu'un répertoire de noms divins. La théogonie fournit une architecture des récits grecs sur Chaos, Gaïa, Chronos, Zeus, Prométhée et les générations héroïques. Les travaux et les jours donnent accès à une conception archaïque de la justice, du travail et de la vulnérabilité des mortels. Les commentaires sont particulièrement précieux pour suivre les généalogies, comprendre la fonction des catalogues et situer les problèmes d'attribution. L'ouvrage demande cependant une lecture attentive. Certaines longues listes, la densité des références et des passages dont les représentations sont aujourd'hui inacceptables, notamment sur les femmes, peuvent créer une distance. Cette difficulté fait aussi son intérêt critique. Elle oblige à lire un texte ancien dans son contexte plutôt qu'à le réduire à des mythes familiers. Par rapport à un dictionnaire mythologique ou à une adaptation romanesque, ce volume se distingue par le contact direct avec la forme poétique et didactique des sources. Par rapport à Homère, il offre moins le récit continu de l'aventure héroïque que la construction d'un ordre du monde et d'une discipline de vie. La réunion des poèmes, fragments et textes associés en fait une porte d'entrée particulièrement complète dans la tradition hésiodique. Si vous souhaitez soutenir Hésiode, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.